Je vous inviterai à chanter un premier cantique. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner, absoudre un si grand coupable et mes péchés oubliés? C'est le numéro 34 de vos recueils de cantique. Vous avez tous un cantique?
Miséricorde insondable, je peux tout pardonner, ah, je vais
je me permets de vous poser une question. Nous venons de chanter ces paroles. Est-ce que nous avons pensé à ce que nous disions? Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Est-ce que nous sommes de ceux qui sont entrés dans cette salle en sachant qu'il y avait ici celui qui pouvait tout nous pardonner? Absoudre un si grand coupable. Est-ce qu'il y en a qui sont entrés ici en se sentant coupable de quelque chose. Bien entendu, absolument aussi grand coupable, c'est n'importe quoi. Mais est-ce que, dans la semaine, peut-être, nous n'avons pas été coupables d'une désobéissance, dans peut-être quelque chose qui n'était pas à la gloire de Dieu, puis maintenant que nous pensons que nous sommes dans sa présence, est-ce que notre âme est heureuse? Est-ce que nous sommes enfin délivrés? Je veux être délivré. Nous avons chanté ça. Bien, nous demandons à Dieu que tous ces moments que nous passons ensemble soient vrais. Dieu notre Père, nous ne voulons pas seulement chanter des paroles, mais en les exprimant, te dire vraiment ce qu'il y a dans nos cœurs. Et croire que toi seul, tu peux nous pardonner, car tu as payé un grand prix sur la croix. Pour nous racheter, tu as donné ta vie. Et c'est pourquoi nous sommes rassemblés ce matin, pour nous rappeler la grandeur de ton amour, comme tu nous as tellement aimés. Et nous voudrions que tu reçoives de tous nos cœurs la reconnaissance et l'hommage qui t'est dû. Toi qui as quitté ton Père pour lui obéir et venir sur la terre chercher et sauver ces créatures perdues. Nous voulons te remercier parce que tu veux que nous sachions maintenant que nous sommes sauvés par ton amour. Guide-nous dans cette heure, inspire chacun de nous et que tu puisses entendre les louanges de tous. En Jésus. Amen. Mes amis, je vous invite à ouvrir vos Bibles tout près de l'Apocalypse. Il y a une épître très courte. Elle n'a que 25 versets. Mais elle est d'une très grande importance parce que celui qui l'a écrit était un des frères du Seigneur, Jésus lui-même, et puis inspiré par Dieu, il nous a révélé comment serait le monde après l'enlèvement de l'Église, quand nous n'y serons plus. Mais la vision qu'il a eue est tellement précise qu'elle nous montre que même si nous sommes encore ici sur la terre, c'est déjà comme ça. C'est déjà comme quand nous n'y serons plus. Ce qui va se passer quand nous ne serons plus là, comment seront les hommes dans ce qui va rester de ceux qui portaient le nom de chrétiens et qui ne l'étaient pas vraiment. Vous savez, il y a un mois, j'étais à Cannes, en France. Il y a un jeune homme qui venait de Strasbourg, avait fait tout le voyage pour me poser des questions. Il n'était pas croyant. Il n'était pas au Seigneur, mais il fréquentait une jeune fille qui était au Seigneur et dont le frère s'était tué l'année dernière d'une façon très tragique. Et les parents étaient tristes de penser que leur fille risquait d'épouser un non-croyant. Et il faisait obstacle à ce mariage. Et alors ce garçon, qui était pourtant quand même très sympathique, a fait le voyage parce qu'il savait que il y avait un ami de la famille qui serait là et qui pourrait peut-être lui parler. Alors on a eu un entretien. Et la première chose qu'il m'a dit, vous savez, monsieur, je crois qu'il y a un Dieu. Mais je ne suis pas son enfant. Je ne suis pas un enfant de Dieu. Je suis une créature. Oui. Je crois bien que quelqu'un a présidé à ma naissance et m'a voulu, mais je ne suis pas un enfant de Dieu. Je voudrais savoir comment est-ce qu'on peut devenir un enfant de Dieu. Vous ne trouvez pas que c'est beau, non ? Quand on est déjà conscient de cela, on est une créature de Dieu, mais au fond, je ne suis pas son enfant. Je ne vis pas sur la terre comme son enfant. Même ceux qui ont été baptisés, comment vivent-ils aujourd'hui ? Quand on a été baptisé, ça voudrait dire qu'on est au Seigneur, qu'on a fini avec notre vie passée, puis que nous lui appartenons à lui tout entier, et que nous voulons ressembler au Seigneur. Mais lui, il avait bien compris qu'il ne ressemblait pas au Seigneur, alors j'ai eu l'occasion de lui parler, je ne sais pas ce que sont devenues les paroles que j'ai pu lui dire. Il était très ému et nous avons prié, je l'ai remis au Seigneur, mais c'est pas moi qui peux faire l'œuvre dans son cœur. Mais je sais que les paroles que je lui ai données sont des paroles de vie, et que même sans moi, loin de moi, ces paroles peuvent germer et produire du fruit. Alors je lui fais confiance. Mais nous qui sommes ici, est-ce que nous sommes vraiment des enfants de Dieu? Je vais lire seulement les deux premiers versets qui introduisent au fond toutes ces matinées que nous allons passer ensemble, puisque on va étudier toute cette épître de Jude dans le détail le matin, pendant que les jeunes seront avec leur groupe. Alors, nous lisons au verset premier de cette épître de Jude, qui est comme une introduction déjà de l'Apocalypse. Jude, serviteur de Jésus-Christ, ou esclave de Jésus-Christ, et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ, que la miséricorde, la paix et l'amour vous soient multipliés. Nous avons d'abord le nom de l'auteur. Et nous savons par les évangiles que c'est ceux qu'on appelle les frères du Seigneur. Il y avait un Jude et il y avait un Jacques. Jacques qui a écrit lui aussi une épître. L'épître de Jacques. Il y avait parmi les apôtres un autre Jacques qui avait pour père Jean. Et avec Pierre, on les voyait toujours ensemble. Pierre, Jacques et Jean. Les trois étaient apôtres. Mais ceux qu'on appelle les frères du Seigneur, et que l'Église romaine appelle ses cousins, parce que dans cette Église, on ne pense pas que Marie ait eu d'autres enfants que Jésus. Peu importe, nous n'allons pas discuter là-dessus. Mais en tout cas, s'ils n'étaient pas les frères, ils étaient les proches parents du Seigneur. Mais s'ils étaient réellement les frères, si Marie a eu des enfants après Jésus, comme on peut le croire, nous apprenons que ses frères ne croyaient pas en lui. Même les plus proches de Jésus, ses frères ne croyaient pas en lui. Et ce que je vous dis là, c'est uniquement la parole qu'il enseigne. Les frères de Jésus, qui vivaient tout près de Jésus, à Nazareth, comme nous le voyons dans les évangiles, au chapitre 7 de Jean, il est dit ceci, et je vous lis le verset, chapitre 7 de Jean, Jésus parcourait la Galilée et il ne voulait pas séjourner en Judée parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Or, la fête des Juifs, la fête des tabernacles était proche et ses frères lui disent, pars d'ici et va en Judée afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde. Car, verset 5, tes frères non plus ne croyaient pas en lui. Jésus leur dit, mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps à vous est toujours prêt. Le monde ne peut vous haïr. Moi, il me hait parce que je rends témoignage de lui que ses œuvres sont mauvaises. Montez-vous à cette terre. Pour moi, je n'y monte pas parce que mon temps n'est pas encore venu. Le monde ne peut pas vous haïr, mais moi, il me hait. Alors, je ne sais pas ce qu'il en est de vous. Est-ce que vous cherchez surtout que le monde vous aime. Et pour que le monde vous aime, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut vivre comme le monde. Il faut suivre absolument tout ce que le monde fait. Et est-ce que c'est le monde, mes enfants, qui va vous attirer? Est-ce que c'est sur le monde que vous allez ouvrir les yeux sur ce que font vos camarades? Sur ce que disent vos camarades, pour faire comme font vos camarades, pour dire ce que disent vos camarades qui n'ont pas eu peut-être, qui n'ont pas du tout des parents chrétiens qui leur parlent de Jésus. Ou bien, est-ce que vous ferez ce que vos parents ont cherché à vous montrer de Jésus, de ce que Jésus était pour son père. Comment Jésus, sur la terre, vivait toujours en pensant à son père dans le ciel. Et il était tellement près de son père qu'il pouvait dire, celui qui m'a vu, il a vu mon père. Il ressemblait tellement à son père dans tout ce qu'il disait. Parce qu'il disait, moi je ne dis rien que mon père n'aurait dit. Je ne fais rien que mon père n'aurait fait. Ce que je fais, c'est ce que mon père m'a montré. Et il était exactement, mes enfants, le reflet du père. Alors, et vous voyez, chers parents, quelle est notre responsabilité? Jésus lui-même disait, soyez parfaits comme votre père céleste est parfait. Et il reflétait tout ce qu'était son père. Alors, on se dit, mais pourquoi est-ce que Jude, qui s'est donc converti, puisque autrefois les frères de Jésus n'étaient pas convertis, mais ils se sont convertis. Après quoi? Après la résurrection du Christ. Ils ne se sont pas convertis avant. Mais quand Jésus est mort, ils ont été touchés, bouleversés, et ils ont donné leur cœur au Seigneur. Et Jésus est apparu à Jacques, l'aîné de ses frères. Puis, certainement, Jude aussi est devenu disciple, mais il n'était pas apôtre. Mais pourquoi est-ce qu'il n'a pas dit Jude, frère de Jésus-Christ, mais seulement serviteur? Mais parce que frère, c'était certainement le souvenir que, autrefois, comme frère, il n'avait pas cru en Jésus. Mais une fois qu'il a été brisé, qu'il s'est converti, étaient appelés serviteurs et même esclaves de Jésus-Christ par humilité. Il ne s'est pas dit non plus le frère de Jacques, parce que Jacques, lui, avait été nommé pasteur à Jérusalem, évêque de Jérusalem. Eh bien, non, il reste petit. Jude, serviteur de Jésus-Christ. Et c'est tout ce que nous désirons être. Nous ne cherchons pas à avoir des titres pour mettre en avant nos titres, pour qu'on nous écoute parce que nous avons des titres. Nous n'avons pas de titres. Nous voulons seulement être les serviteurs de Jésus et cela nous suffira. Alors, ce Jude a reçu un message. Maintenant qu'il est au Seigneur, maintenant qu'il est converti. Et il s'adresse à ces personnes en les appelant, vous aurez remarqué trois choses, et c'est ces trois choses que je vais souligner, avant de souligner encore son vœu, à ceux qui sont appelés. Appelés. Est-ce que vous avez été appelés? Tous, nous devons pouvoir nous souvenir qu'un jour, vraiment, nous avons entendu l'appel du Seigneur. Un appel personnel. Quand Dieu a créé l'homme et la femme à son image, eh bien, il n'y avait pas besoin de les appeler, ils étaient là. Pourquoi est-ce qu'il a dû après les appeler? À quel moment est-ce qu'on apprend qu'Adam a été appelé? Dans ce merveilleux jardin d'Éden, où Dieu se promenait, eh bien, il apportait à Adam, qui était là, dans une rencontre avec lui, il lui apportait tout ce qu'il désirait. C'est là qu'il lui a dit, il n'est pas bon que tu sois seul, je te ferai une aide qui te correspond. Et c'est là, en Éden, qu'il a institué le mariage. C'est Dieu qui est l'auteur du mariage et c'est Dieu qui a voulu qu'un homme puisse trouver une femme. Et il ne l'a pas laissé chercher seulement au milieu des animaux, parce que l'homme avait regardé tous les animaux, mais il ne trouvait pas parmi les animaux une aide qui lui corresponde. Alors Dieu a décidé de lui former une femme qu'il a amenée à l'homme. Mais jusque-là, donc, Dieu n'avait pas besoin d'appeler. Mais voilà que l'homme a désobéi à Dieu. Il pouvait manger de tous les fruits des arbres du jardin, sauf d'un, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui était au milieu du jardin, avec l'arbre de vie. L'arbre de vie, il pouvait en manger. Mais il n'est pas allé manger l'arbre de vie. Il a mangé l'arbre de la connaissance. Il a voulu connaître quelque chose sans Dieu. D'accord avec sa femme. Sa femme a pris le fruit, en a mangé, et puis l'a donné à l'homme qui savait très bien que s'il en mangeait, qu'est-ce qui lui arriverait? Il mourrait. Dieu le leur avait dit, vous mourrez certainement. Mais Satan est venu, puis leur a dit, mais c'est pas vrai, si vous mangez ce fruit-là, vous deviendrez comme Dieu. Et c'est vrai? Si vous imitez le monde, si vous faites ce qui se passe dans le monde, parce que c'est Satan qui est le prince de ce monde, si vous faites ce que je vous dis, vous serez des dieux. Vous pourrez tout faire, n'importe quoi, tout vous réussira. C'est vrai? Non, c'est un menteur. Et justement, le péché, c'est une désobéissance. Et alors, quand ils ont eu désobéi, ils n'étaient plus heureux. Ils avaient perdu leur bonheur, ils étaient encore dans un beau jardin, il y avait un tas de fruits, tout cela, mais ils étaient malheureux, malheureux, malheureux. Et alors, quand ils ont entendu les pas de Dieu dans le jardin, ils ont eu peur. Et c'est là qu'a commencé le règne de la peur dans ce monde. Et puis, ils ont eu une autre chose. Avant, ils n'avaient pas besoin de porter des habits. Donc, il n'y avait pas de mode. Hein, parce que Dieu leur avait fait un habit de gloire. Leur corps était un habit glorieux. Et c'était un habit de gloire, leur propre corps. Mais voilà que maintenant, ils n'avaient plus le même regard
quand ils se voyaient l'un l'autre, et ils avaient honte de leur nudité. Quand on est avec Dieu, on n'a pas honte. Mais là, ils ont eu honte de leur nudité, et ils ont voulu se couvrir. Et ils ont couru où? Dans les arbres. Ils ont pris des grandes feuilles de figuier, et ils les ont cousues ensemble, et ils en ont fait des ceintures. Puis, quand Dieu a parlé, Adam, où es-tu? C'est ça l'appel, hein. Adam, où es-tu? Et qu'est-ce qu'Adam a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Il avait peur. J'ai entendu ta voix et j'ai eu peur. Et je me suis caché. Et pourquoi est-ce que tu as eu peur? Parce que j'étais nu. Et Dieu lui dit, mais qui t'a montré que tu étais nu? As-tu mangé du fruit de l'arbre? Puis l'homme, qu'est-ce qu'il a dit? Ah, c'est comme ça qu'on fait dans les familles. C'est ma femme. Celle qui a fait ça. Elle m'a donné, la femme que tu m'as donnée, elle m'a donné du fruit. Et puis, Dieu dit à la femme, pourquoi tu fais cela? Le serpent m'a séduit. Et j'en ai mangé. Et alors, c'est depuis ce moment-là que Dieu a dû appeler. Mais avant, on n'avait pas besoin d'appeler. On était prédestinés à la gloire éternelle. Dieu avait fait un plan pour que l'homme de sa vie heureuse qu'il aurait dans la compagnie de Dieu et puisse passer dans l'éternité sans passer par la mort. Mais maintenant, l'homme a péché et la mort est intervenue et Dieu, s'il veut nous sauver, il doit nous appeler. Alors, dans son amour, il a envoyé son fils. Et c'est son fils qui est venu sur cette terre, vous le savez, c'est le Seigneur Jésus. Et il nous appelle, et il vous appelle, et il vous demande de venir à lui. Il vous dit, c'est lui qui est le sauveur du monde. Ceux que Dieu a appelés. Eh bien, je voudrais croire que vous avez été appelés. Je me souviens très bien quand j'ai été appelé. J'avais 13 ans. J'étais dans une réunion. Et j'ai compris que c'était pour moi, cette réunion avait lieu, et que le Seigneur m'appelait. Je connaissais bien des vérités chrétiennes, mais que je devais dire oui à mon Seigneur, oui au Seigneur. Là, nous demandons à Dieu que dans ces journées, vous puissiez être convaincu que vous avez besoin de Jésus, et que vous puissiez lui dire, oui Seigneur, je te donne ma vie. Alors vous verrez, il y aura un changement. Vous n'aimerez plus tout ce qui se passe dans le monde. Vous aurez des yeux qui s'ouvrent. Parce qu'ils auront vu le Seigneur. Et que le Seigneur est tellement plus merveilleux que tout le monde vous offre. Quand vous aurez vu le Seigneur, vous aurez en haine les modes du monde. Tout ce qui se fait dans le monde, qui plaît au monde, qui plaît même à vos camarades. Et puis vous regarderez le Seigneur. Vous savez ce qui arrivera? Vous regarderez tellement au Seigneur que vous commencerez à lui ressembler et qu'on dira, mais ils sont comme le Père de Jésus, ils sont comme Jésus. Pourquoi est-ce qu'ils ne font pas ceci? Pourquoi est-ce qu'ils ne disent pas cela? Et comme Jésus, Jésus n'aurait pas dit cela, Jésus n'aurait pas fait cela. Parce que Jésus vous habite, parce que Jésus est dans votre cœur. Alors vous êtes libérés de tout cela. Mais tant que vous voulez suivre le monde, imiter le monde, faire comme le monde, avoir un visage qui ressemble à celui du monde, eh bien, vous avez peut-être des paroles, mais vous n'aurez jamais la puissance qui permet de sauver une âme. Et vous savez, c'est tellement beau de se souvenir d'enfants qui se sont convertis par des jeunes qui n'avaient que 12 ans, 13 ans, qui ont été le moyen de la conversion de vos camarades, qui ont amené d'autres camarades au Seigneur, et qui marchent avec le Seigneur, et qui sont devenus des serviteurs du Seigneur, des esclaves du Seigneur, parce qu'ils ont commencé très jeunes. Et puis, il y a des frères qui ont été le moyen de la conversion de leurs frères, des sœurs qui ont été le moyen de la conversion de leurs petites sœurs, et à cause de leur père, à cause de leur sœur, dans une grande famille, ils se sont mis à aimer le Seigneur. Eh bien, que Dieu vous rappelle cela. Vous êtes appelés. Avez-vous répondu à l'appel? À l'appel de Jésus? Puis notez la deuxième chose qu'il leur dit. À ceux qui sont appelés, et qu'est-ce qu'ils sont encore, ceux qui sont appelés? Bien-aimés en Dieu le Père. Vous rendez-vous compte? Ce que cela veut dire, bien aimé en Dieu le Père de qui? Qui c'est ce Père? C'est le Père de Jésus. Est-ce que le Père aimait son Fils? Oui, il aimait son Fils, à un tel point qu'il a pu dire, c'est mon Fils bien aimé, en qui je trouve tout mon plaisir. Eh bien, ce Père de Jésus devient votre Père. Vous êtes aimé en Dieu le Père. Et ce Père, je veux seulement vous rappeler ce qu'il est. Jésus disait, c'est un Père qui est juste. Des fois, nos parents, les pères ne sont pas toujours justes, mais lui, c'est un Père juste. C'est un Père qui est saint, qui ne fait que des choses agréables. Saint, juste. Un Père de miséricorde, c'est-à-dire et qui aime les misérables, qui aura pitié des misérables. Et quand vous vous sentez misérable, hein, et que vous le reconnaissez devant le Seigneur, toute la miséricorde de Dieu vient à vous. Il est le Père de toutes les miséricordes. De sorte que vous ne devez pas rester des misérables, mais vos camarades doivent savoir que vous pouvez les aider. Aidez vos camarades, non pas les suivre, mais les retenir, de faire le mal. Vous pouvez cela parce que vous avez un Père de miséricorde et il vous donnera cette miséricorde pour vos camarades. Père des miséricordes, c'est un Père de gloire. Tout ce que ce Père est glorieux. La gloire, c'est la perfection de Dieu, les perfections de Dieu. C'est un Père d'amour. Voyez, disait l'apôtre Jean, de quel amour le Père vous a témoigné, que vous soyez appelés enfants de Dieu. Le Père de Jésus voudrait que il puisse vous appeler ses enfants, comme il a appelé son Fils, mon Fils. Il voudrait te dire que tu es son Fils, que tu es sa Fille, en ce jour du 30 juin. Le dernier jour du mois de juin, vous ne savez pas que ce serait merveilleux, le dernier jour du mois de juin, vous puissiez dire, oui Seigneur, j'ai compris que le monde est mauvais, qu'il suit son prince, Satan, et maintenant, je sais que tu m'aimes, et que tu m'aimes comme tu as aimé ton fils. Quand vous êtes à l'école, dans une difficulté, quand vous êtes sur la rue, quand vous êtes avec vos camarades, de penser, Dieu m'aime comme il aimait Jésus, comme ça vous aidera. Comme vous serez béni. C'est un Père qui est bon. Père juste, Père saint, Père de miséricorde, Père de gloire. Vous êtes aimé en Dieu. C'est quelque chose. Je demande au Saint-Esprit de vous toucher. Et puis, enfin, vous êtes appelé, vous êtes bien aimé en Dieu. Et le troisième terme, vous êtes gardé. C'est merveilleux. Hein? Vous êtes gardé. En qui? Ou pour qui? Gardé pour Jésus-Christ. Si vous donnez votre cœur au Seigneur, lui vous gardera. Il ne va pas vous perdre. Il vous gardera. Vous serez gardé pour lui. Et quand il reviendra, c'est lui qui vous montrera. Et qui dira, je l'ai sauvé, et il m'a suivi, c'est mon disciple. Et il vous donnera cette merveilleuse récompense, et vous serez un jour dans sa maison, qui est appelée la maison du Père, gardée par Jésus, et pour Jésus. Est-ce que ça ne vous suffit pas? Eh bien, c'est cela que j'avais à cœur de vous signaler au début de ce temps. Vous êtes appelé, vous êtes aimé
en Dieu le Père, et puis vous êtes gardé pour Jésus-Christ.
Il va venir dans ce monde des choses terribles. Et c'est ce que nous allons voir dans cet épître de Jésus. Et c'est déjà comme cela maintenant. Mais jusqu'où vous vous serez gardé. Et alors le vœu qu'il vous fait, et c'est le vœu de ce temps, que la miséricorde, la paix et l'amour vous soient multipliés. La miséricorde. Ce sentiment de bonté. Cette certitude que Dieu vous aime malgré vos défauts, parce que vous pouvez toujours aller à lui et lui confesser vos fautes. Il pardonne parce qu'il a tout payé. Et il veut vous aider. Que cette miséricorde, vous puissiez apprendre ce qu'elle est dans ce temps. Puis que vous ayez la paix. Pas de trouble. Une paix qui surpasse toute intelligence infinie. C'est incroyable. On passe par des épreuves, puis on est dans la paix. On est dans la paix. Parce que sa paix, parce que lui est notre paix. C'est lui qui habite dans nos cœurs, alors il est notre paix. Et puis, enfin, l'amour. Être renouvelé dans l'amour. Un amour multiplié. Un amour qui grandit de jour en jour. Voilà comment commence cet épître que nous allons étudier chaque matin. Eh bien, souvenez-vous que vous êtes appelé. Souvenez-vous qu'ayant répondu à son appel, vous êtes aimé de Dieu, le Père, qui vous a donné Jésus, et qui fera pour vous, si vous vous attendez à lui, tout ce qu'il a fait pour Jésus. Et vous deviendrez dans ce monde une génération, peut-être la dernière avant son retour, dans laquelle le Seigneur pourra voir chez les enfants, chez les parents, le reflet du Père. Car nous sommes appelés à être parfaits comme le Père est parfait. Que Dieu nous donne cette grâce. Amen. Maintenant, nous allons avoir ce moment.